Radio G 101.5 FM. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes au 101.5 FM à l'écoute de l'émission Radio Nippon, le programme qui vous fait voyager à travers la culture japonaise. Laissez-nous donc vous faire découvrir cette culture qui nous passionne au fil des récits et des rencontres, un mardi sur deux à 13h. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale puisque c'est l'émission de Noël. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. Aujourd'hui, du coup, on commencera par les actualités. Nous continuerons ensuite avec David. David qui a toujours et encore continué son idée sur Mangalu et qui continuera progressivement de vous présenter un nouveau manga. Ensuite, nous continuerons avec Nicolas. Nicolas qui a voulu nous expliquer un petit peu quelques détails entre le Noël français et le Noël japonais. Tu veux nous en dire un petit peu plus là ?
En fait, c'est vraiment pour présenter la manière dont les Japonais fêtent Noël.
Intéressant tout ça. Et enfin, on terminera par une petite session et une petite chronique sur Oda Nobunaga. Bien entendu, nous retrouverons Victoria pour diverses pauses musicales afin d'agrémenter l'émission. Sans transition, démarrons tout de suite ces actualités. À compter du mercredi 25 décembre, il y a un film franco-japonais qui sort, La vérité de Hirokazu Koreeda. Ce film de 2019 dure 1h47 et raconte assez rapidement l'histoire de Fabienne, qui est une icône du cinéma, qui est la mère de Lumire, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite son fils Lumire et sa famille à revenir dans la maison de son enfance, mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation. J'espère que ce petit synopsis vous a donné l'eau à la bouche. Pour le reste, je vous laisse aller en salle et retrouver ce film à compter du 25 décembre, aux 400 coups. Après ces actualités, tout de suite, nous allons pouvoir retrouver David, qui va nous présenter un nouveau manga de la sélection Mangalu.
Salut à tous, c'est David sur les ondes de Radio G dans l'émission Radio Nippon. Et c'est moi qui vais continuer l'émission avec ma petite chronique manga. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté les dernières émissions, Mangalu c'est un événement organisé par Azumanga qui consiste à avoir une sélection de 9 mangas dans 3 catégories différentes, Seinen, Shoujo et Shonen. Le but de octobre 2019 à mars 2020, les collégiens peuvent lire l'ensemble de la sélection et doivent voter pour leur manga préféré à la fin de l'événement, donc vers mars. On pourra donc voir quel manga aura été choisi par les collégiens et ce seront les lauréats de l'événement. Vous pouvez écouter les dernières émissions en podcast sur le site de Radio G pour avoir plus de détails sur l'événement. Donc je vais vous présenter un manga qui s'appelle Sky Wars. Je vais vous lire le petit résumé. Dans le petit royaume d'Eldura, tenu d'une main de fer par le despote Ornizos, il n'existe pas de plus grave faute que le crime d'envol. Fendre les cieux, tel est pourtant le rêve de Knight, jeune berger dont le père a lui-même disparu après avoir créé une machine volante. Le monde de Knight bascule le jour où surgit à Eldura un inconnu chevauchant une monstrueuse créature dotée d'ailes. Voilà un petit peu pour le résumé. Pour les détails du manga, donc c'est un manga qui, en série complète, est composé de 8 tomes. Il est sorti en 2009 au Japon et est dessiné et scénarisé par le mangaka Han Dong-sik, édité chez Casterman aux collections Saka. Petite description du manga. En couverture, en fait, vous pouvez voir le jeune héros Knight accompagné de son fidèle compagnon Plamo, qui est une sorte de petit dragon. Ouais, je fais un petit spoil. Dans la description, je parlais qu'un inconnu arrive à Eldura, chevauchant une monstrueuse créature. Voilà. Ce petit compagnon voilà, a un lien direct avec cette créature, je n'en dis pas plus. On les voit assis sur une espèce d'aile d'avion. En fond, on voit le ciel et on voit ces fameuses créatures voler en second plan. Et ce jeune héros qui regarde avec admiration ces créatures voler. Au niveau de l'histoire, donc, comme je le disais dans le résumé, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve de s'envoler, qui rêve de poursuivre les rêves de son père hein, qui a disparu. Donc moi, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de l'histoire j'aime beaucoup. Pour un shonen, je trouve le scénario intéressant. J'ai hâte d'en découvrir un peu plus. En plus, 8 tomes, je pense que ça doit vraiment bien se lire. Hein. Je l'ai avalé en 3 quarts d'heure. Au niveau des dessins, bon, j'aime. Moi, je suis pas super fan, mais je pense que certains aimeront. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Après, comme je dis, au niveau de l'histoire, on rentre très très vite dedans. C'est très généreux au niveau du dessin. que ce soit les personnages, les décors, c'est très précis, l'ombrage, etc. Bon, je suis pas un spécialiste, hein, mais voilà, c'est généreux, c'est fourni, les pages, il y a quoi regarder, il y a quoi lire. Si j'avais donné une petite note sur 5, 3,5 sur 5, j'aimerais quand même lire le deuxième tome pour savoir un peu où ça va, mais sur le premier tome, c'est pas mal. Voilà un petit peu pour ma courte description de ce manga, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis, bien sûr, vous pouvez aller trouver toutes les informations sur le site d'Azumanga. Moi, je vous dis à la prochaine émission pour continuer les descriptions des mangas dans la catégorie shonen. Je laisse la parole à mes petits camarades.
Pour cette première pause musicale, je vais vous parler de Unison Square Garden, formé en 2004, un groupe que vous avez sûrement déjà entendu lors de vos sessions quotidiennes d'animé. En effet, on peut les retrouver sur les génériques des animés Tiger and Bunny, Kekkai Sensen, Ballroom et Yokoso, et plus récemment, Fate Grand Order, Zettai Majou Sensen Babylonia. Et c'est justement pour cette dernière participation que je souhaite vous en parler aujourd'hui. Ceux qui sont adeptes des séries Fate en auront déjà entendu parler, mais actuellement, une nouvelle série de la franchise est en parution et continuera en janvier. On suit Litsuka et Mash qui tentent de sauver le monde en se rendant en Mésopotamie lorsque les dieux et les humains cohabitaient encore. On apprécie le rythme effréné de l'opening qui rappelle celui de l'animé et colle parfaitement aux images qui sont tout aussi dynamiques. Je vous propose donc de l'écouter sans plus tarder, Phantom Joke par Unison Square Garden.
Mami de quitte 蜃気楼心まで霞んで蜃気楼全然ハクハクも新ギフトになる全部嫌になったそれさえも幸せな結末だダメだそんな悲しいこと言うなまだ世界は生きてる君が泣いてたって生きてるだからこの空への先を見て邪魔すぎる
Après cette petite pause musicale rafraîchissante de Victoria, nous allons pouvoir retrouver Nicolas. Tu avais un petit sujet d'actualité, puisque après tout, pour Noël, nous allons parler de...
De Noël. Comme je le disais tout à l'heure, je vais vous parler de la manière dont les Japonais fêtent Noël, qui est assez différente de la manière dont on fête Noël en Occident. Donc en préambule, il est nécessaire de rappeler qu'il n'y a que 3 millions de chrétiens au Japon, soit entre 1 et 2% de la population. Noël n'est donc pas une fête religieuse, mais plutôt une fête ultra commerciale, on peut le dire, qui a été importée de l'Occident au début du XXe siècle. Son origine nippone remonterait à l'an 1904, lorsqu'une épicerie haut de gamme du quartier de Ginza à Tokyo aurait décoré sa vitrine avec un sapin de Noël. Il existe principalement trois manières de fêter Noël au Japon, entre amis, en couple ou en famille. Entre amis, comme je l'évoquais plus tôt, il s'agit d'une fête commerciale. Ainsi, pas question pour la jeunesse nippone de passer la soirée avec leurs parents autour d'une dinde au marron à regarder la messe de minuit à la télévision. Les jeunes japonais iront plus volontiers passer leur soirée entre amis à déguster du poulet frit au KFC du centre-ville. Un repas devenu typique de Noël au Japon, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On fête également Noël en couple. En effet, Noël y est devenu au fil des années comme une sorte de deuxième Saint-Valentin. Le 24 décembre est donc l'occasion pour les jeunes couples de dîner en amoureux dans un resto chic italien ou français et de s'offrir de petits cadeaux. Fun fact, il n'est pas rare de voir des Japonais mettre un terme à leur relation amoureuse peu de temps avant Noël. Question d'économie. Enfin en famille. J'ai dit précédemment que Noël ne se fête pas en famille au Japon. Bien évidemment, il y a une exception à cet état de fait. Dans le cas d'une famille avec de jeunes enfants, Noël devient alors une fête qui leur est destinée. Ils reçoivent des cadeaux de la part de Santa-san, ou Santa, diminutif de Santa Claus, cadeaux déposés au pied de leur futon par leurs parents pendant la nuit du 24 au 25 décembre. Concernant la gastronomie de Noël, pas grand chose à voir avec le repas traditionnel occidental, même si les Japonais s'en sont inspirés. Ils mangent généralement du poulet rôti à Noël, faute de pouvoir trouver facilement de la dinde, et vous le sentez venir, c'est là que nous retrouvons la chaîne de restauration rapide créée par le colonel Sanders. Depuis le milieu des années 70, KFC est devenu un des acteurs majeurs du repas de Noël, aujourd'hui traditionnel au Japon. On peut dire que Takeshi Okawara, manager du premier KFC japonais, a eu le nez creux. La légende voudrait que celui-ci aurait entendu des étrangers se plaindre de ne pas pouvoir trouver de dinde pour le réveillon au Japon. C'est là qu'il eut l'idée de remplacer la dinde par du poulet frit. Il a alors lancé une campagne publicitaire nationale avec comme slogan « Kentucky for Christmas ». La campagne cartonne, faisant du KFC un repas traditionnel du Noël nippon. Le dessert traditionnel japonais est un shortcake aux fraises et à la chantilly. On pense que celui-ci s'est imposé car les couleurs du gâteau rappelle celle du drapeau national. Dernier point à aborder, qui finalement est fort similaire à la manière occidentale de faire vivre l'esprit de Noël, c'est le soin apporté aux décorations de Noël. Les Japonais n'ont pas attendu l'importation de cette fête pour éclairer leur ville. Aujourd'hui, toutes les villes se parent de leurs plus beaux atours, guirlandes, sapins de Noël, illuminations et même marchés de Noël. Et comme en Occident, certains Japonais décident de réveillonner dans un parc à thème, comme par exemple chez Mickey, au Tokyo Disneyland. Pour conclure, j'ajouterai que le 25 décembre n'est pas un jour chômé au Japon, contrairement au 23, férié pour célébrer l'anniversaire d'Akihito, empereur de l'ère Heisei.
Du coup, je te remercie Nicolas pour cette chronique très très bien développée. D'après ce que j'ai entendu, tu t'es ouvert un petit peu la porte pour un premier de l'an.
Et effectivement, on peut même limite l'annoncer, je vais également faire une chronique sur le premier de l'an japonais, qui est également très différent de la manière dont on le fait ici.
Si je peux juste ajouter quelques précisions par rapport à Noël au Japon, on peut voir les nombreuses différences, notamment quand on lit certains mangas ou certains animés, notamment les shoujo, puisque comme tu l'as dit, c'est une des journées qu'on passe en couple. Il y a beaucoup de shoujo en fait où justement il y a un petit décalage quand on lit nous occidentaux, puisque la journée de Noël est vraiment soit une organisation faite avec surtout ses amis, soit voilà une journée importante pour le couple. Et c'est vrai que moi ça m'a toujours choqué en tant qu'occidentale, de voir que les Japonais à Noël n'étaient pas en famille en train de déballer des cadeaux, etc. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir pu discuter de tout ça en ce jour béni, j'ai envie de dire.
Donc tout de suite, on va pouvoir passer à la petite partie histoire. Vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 FM à l'écoute de l'émission Radio Nippon. Et on va pouvoir se retrouver pour la partie de l'histoire du Japon sur laquelle on s'était arrêté. Juste pour mémoire, on s'était arrêté en 1489 où le Japon est totalement divisé. Et cette période de 1489, c'est la période où une grande personnalité du Japon est apparue. Je parle bien sûr d'Oda Nobunaga. En effet, Oda Nobunaga est l'un des trois premiers principaux unificateurs du pays. Comme le Japon est totalement divisé, il a bien fallu quelqu'un pour réussir à remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Et le premier, c'est Oda Nobunaga. Déjà, commençons par le commencement. Est-ce que vous savez à quelle date il est né ?
Non.
Non.
Il est né en 1534. Et la vie ne le gâte pas puisque dès l'âge de ses 6 ans, il devient maître d'un château. Il démontre très vite à 6 ans qu'il a un côté très exubérant et qu'il n'a pas beaucoup de retenue. En fait, il se rattache très souvent avec des personnes qui sont pas très très bien vues dans son statut social. Oda Nobunaga, même s'il suit l'école, il préfère le plus souvent rester avec des roturiers ou des samouraïs de bas rang plutôt que des personnes qui sont de son statut. A tel point qu'il en fut même surnommé Howari no Utsukemono, c'est-à-dire le grand imbécile d'Owari. Il pousse tellement son excentricité qu'il finit même, à l'âge de raison, de revenir chez son père en portant une tenue relative au bukkei. Le bukkei est en fait une tenue relative aux agents qui sont rattachés au bakufu, au gouvernement militaire, qui est en contradiction avec son père qui normalement est rattaché au kuge, donc aux nobles qui sont rattachés à la cour. Or le bakufu, la cour, c'est toujours un petit peu tendu. Mais bon, ça ne s'arrête pas là, son excentricité, puisque en 1546, donc à l'âge de 12 ans, il obtient enfin sa première majorité civile. Et là, c'est parti, à l'âge de 12 ans, et en 1547, donc un an plus tard, il commence déjà sa première action militaire à Mikawa. Mais son père a quand même un petit peu peur pour lui, donc il essaye de le marier de force à Dosan no Hime. Et en fait, le but est double. D'une part, essayer de calmer un petit peu son fils, mais également un mariage politique pour réussir à créer une alliance entre deux clans rivaux, le clan des Oda et le clan des Dosan. Sauf que l'alliance, en fait, elle tourne au vinaigre assez rapidement, puisqu'en 1551, Oda Nobuhide, qui est le père de Nobunaga, décède. Et là, Nobunaga fait une gaffe monstrueuse, puisque lors de l'enterrement, son comportement offusque absolument toute l'assemblée. Plutôt que d'utiliser les encens comme il se doit, il balance les encens sur l'autel de son père. Alors là, il offusque absolument tout le monde, à tel point que même son mentor, pour le protéger, est obligé de se faire seppuku pour s'en excuser. Seppuku, c'est harakiri. Son père ainsi décédé, Oda Nobunaga est de fait normalement l'héritier légitime du clan Oda. Mais pour reprendre la main sur le clan Oda, il y a de nombreux obstacles qui se dressent devant lui. En effet, le clan Oda est divisé en de multiples factions et est sous le contrôle d'un Kanrei. Si vous vous souvenez, lors de la dernière fois, j'avais expliqué qu'un Kanrei était une personne qui administre des grandes régions. Donc là, il est sous l'administration d'un Kanrei. Comme il doit bien commencer par quelque chose, il réussit à faire assassiner le Kanrei de l'époque et, histoire d'en rajouter, se retourne contre l'assassin du Kanrei afin d'obtenir un petit peu une partie de l'adhésion de son clan. Là, il fait quand même très fort. Il exploite même la mort du Kanrei pour former des alliances avec d'autres Kanrei environnants, donc avec le clan des Imaogawa et le clan des Kira. Afin que le clan des Shiba réussisse à être un petit peu, neutralisé, il va donc former des alliances avec les Imaogawa et les Kira. Cependant, ce qui devait arriver arriva. Comme son clan était divisé, en interne, c'est un petit peu compliqué. Donc il va subir plusieurs révoltes, deux notamment, une qui va le repousser dans un premier temps et qui va réussir à tuer que bien plus tard, quand il aura eu sa renommée nationale, et une seconde qui vient de son frère Nobuyuki qui se rebelle. Il est quand même défait lors de la bataille d'Ino sans être tué, puisque sa mère intervient. Mais cependant, cette erreur qu'Oda Nobunaga a faite, il ne la refera pas plus tard, puisque une année après, son frère projette encore de se rébeller. Cette fois-ci, il prétexte qu'il est malade, il invite son frère à venir le voir et il le tue. Ainsi, en 1559, donc en seulement 8 ans après la mort de son père, toutes les oppositions sont éliminées. Toutes les oppositions dans son clan comme à Owari. En effet, parce qu'en 1559, il s'est carrément attaqué, cette fois-ci au Kanrei Shiba Yoshikane, et réussit son coup. Fort de cette attaque, son allié Imagawa rassemble 30 à 40 000 hommes pour réussir à avancer sur Kyoto et devenir le shogun de l'époque. Et Oda, avec seulement 3 000 hommes, lui reçoit l'ordre d'arrêter Imagawa. Donc 3 000 hommes face à 30 000, on est bien d'accord, ça le fait pas. Et bah pourtant il va réussir un coup de maître. Lors d'un orage qui n'était absolument pas prévu, Oda Nobunaga va lancer une attaque sur l'arrière de toute l'armée des Imagawa. Et il va réussir à en tuer le chef, Imagawa Yoshitomo. A cause de cette bataille, il en obtient une renommée nationale. Et grâce à cette renommée nationale, à partir de là, c'est en roue libre. C'est en roue libre complet, il va pouvoir continuer d'avancer au fur et à mesure. En 1568, les shoguns au pouvoir sont toujours le clan des Ashigata, et notamment Ashigata Yoshiaki, qui veut devenir shogun, demande clairement à Oda Nobunaga s'il peut pas l'aider. Et Oda accepte. Il l'accepte, mais pour aller à Kyoto, il faut qu'il réussisse à passer le clan des Rokkaku, qui, eux, par contre, sont prêts à faire la guerre. Il réussit du coup un grand coup de maître, puisque en 21 jours, il arrive à prendre 18 châteaux du clan Rokkaku et est finalement aux portes de Kyoto. Donc bah là, bah, j'en passe des meilleurs, puisque à Kyoto, il arrive à chasser assez rapidement le militaire qui était en place. Il arrive à mettre Yoshiaki Ashigata comme poste au shogun, et ce sera d'ailleurs le dernier shogun des Ashigata. Au final, en fait, il avait pris le pire de tous les vassaux. À tel point que Yoshiaki va chercher à correspondre secrètement avec divers daimyo pour créer une alliance anti-Nobunaga. Et notamment le clan Asuka, qui était assez irrité, puisque au début, le clan Oda était un vassal du clan Asuka. Sauf que bah, maintenant, il est beaucoup trop puissant, donc c'est pas un simple vassal. Et du coup, bah, Nobunaga, qu'est-ce qu'il fait d'après vous?
Il assassine le chef de clan.
Alors, c'est presque ça, dans le sens où en fait, c'est le premier à attaquer, mais il n'y arrive pas. Du coup, Nobunaga se retrouve encerclé et la seule réponse qu'il obtient, c'est par la fuite. Puis, avec l'aide des rebelles Ikko Hiki, l'alliance anti-Nobunaga attaque avec toutes ses forces, causant de très lourdes pertes au clan Oda au cours d'une campagne de plusieurs années. Cependant, il va pas se laisser faire comme ça, puisque Nobunaga et Tokugawa Ieyasu défont les forces combinées du clan Asakura et Asai dans la bataille d'Anegawa. Et bien que ça ne suffise pas, il recommence année après année, et Nobunaga consolide ainsi sa position et l'emporte au fur et à mesure sur ses ennemis avec des méthodes sans pitié. Elles sont tellement sans pitié qu'il en gagne le surnom de roi démon. À l'apogée de l'alliance anti-Nobunaga, Takeda Shigen est convaincu qu'il doit se lever contre le clan Oda. Tokugawa Ieyasu étant même vaincu lors de la bataille de Mikatagahara en 1572. Nobunaga doit donc lui envoyer des secours. La lutte ne semble pas pouvoir prendre fin. Mais heureusement, en 1573, Shigen Takeda se retire provisoirement et finit même par périr par une balle d'un tireur embusqué. Au final, en 1574, la seule menace qui pèse encore sur Nobunaga est le clan Takeda. Il est dirigé maintenant par Takeda Katsuyori. À la bataille décisive de Nagashio, les forces combinées de Nobunaga et Ieyasu l'emportent sur le clan Takeda. Nobunaga continue alors son expansion tout azimut. Ainsi, en 1577, un des lieutenants de Nobunaga reçoit l'ordre de s'étendre vers l'ouest pour affronter le clan Mori qui commençait à réussir à leur tenir tête. Ce qu'il faut retenir, au final, c'est qu'en 1582, Hideyoshi Ashiba envahit la province de Bitchu et met le siège devant le château de Takamatsu du clan Mori. Ce château était stratégique et les Mori ne pouvaient pas se permettre de le perdre. Aussi, Terumoto Mori mène l'armée de secours et les deux camps arrivent à un statu quo. Ashiba demande finalement des renforts à Oda Nobunaga, qui se met en route pour la région de Shugoku. Nobunaga fait une halte à Onoji, un temple de Kyoto. Il est alors au milieu de ces terres fermement contrôlées. Son cortège se limite à quelques douzaines de serviteurs et de gardes du corps. À ce moment-là, Mitsuhide Akechi attaque soudainement Onoji dans un coup d'état, et Oda Nobunaga est obligé de se faire séparer. Ainsi est la mort de Oda Nobunaga. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé, j'ai été un petit peu long.
Ouais, t'inquiète.
Tout ça pour qu'il se fasse assassiner comme un saint. Le type, il a assassiné tout le monde. Et puis, bim, quoi, ils se rendent pas compte qu'il y a d'autres gens qui peuvent faire pareil que lui.
C'est un peu comme ça, me fait penser un peu à genre, tu vois, ce genre de fin de merde, genre à Napoléon, le mec qui a conquéré quasiment toute l'Europe pour au final se retrouver dans. Sur une petite île toute pourrie, tout seul. Avec...
En fait, au fin mot de l'histoire, personne ne sait si la demande de renfort est pour laisser Oda Nobunaga terminer le dernier des Mori. et donc les Mori ont réussi à retourner la situation, ou si c'était un acte de trahison. Tout le monde se bat un petit peu dessus. Bon, moi ça m'intéresse pas tellement.
J'espère que c'est une trahison.
Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que du coup il est mort bêtement. Et que bah, au final, derrière, un de ses plus grands vassals, qui est Ieyasu, va réussir justement à prendre un petit peu la suite de tout ça.
Ok, voilà. Et bah, merci beaucoup Xavier. C'était très enrichissant.
Bah, je te remercie. Et puis bah, tout de suite, on va pouvoir retrouver Victoria pour sa deuxième pause musicale. On va vous donner rendez-vous dans 2 semaines, le 7 janvier. D'ici là, portez-vous bien.
Vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 dans l'émission Radio Nippon. Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, je vais vous présenter Miss Unloid. Formée en 2015 avec la chanteuse Mayu, elle est remplacée en 2017 par Kiho, mais les deux chanteuses ont su imposer le style du groupe depuis leur début. Ils sont connus sur la scène de l'anisson grâce aux nombreux génériques d'Overload, Le Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu ou Yojo Senki. Ils sont en ce moment à la tête de l'opening de l'anime Kono Yusha ga Ore Tue Kuseni Shinsu Sugiru, titre assez long pour parler d'un héros invoqué pour sauver un monde et qui s'avère être surpuissant. Si cela aurait dû rendre la tâche plus simple à la déesse qui l'a choisi, celui-ci se révèle être surtout trop prudent. La déesse Lista arrivera-t-elle à lui faire entendre raison et à sauver ce monde? Cet anime assez déjanté est une bonne surprise sans prise de tête, et l'opening, souvent plus classe que le reste de l'épisode, donne un bon coup de peps. Écoutons donc Tit for Tat par Miss Unloid. Sur ce, bonne écoute, et dans 2 semaines, même lieu, même heure, sur Radio Nippon. Gotta play it small.
Radio G.